Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Des représailles à minima. Israël semble bien avoir répliqué à l'attaque iranienne du week-end dernier. 3 explosions ont été rapportées près d'Ispahan ce matin, mais Téhéran minimise l'impact et les autorités israéliennes ne commentent pas. Les explications de Thibault Lefebvre depuis Jérusalem. Dans un instant, nous irons également à Washington, où la Maison-Blanche dit ne pas être impliquée et prône la désescalade. La Chine inquiète les pays du G7 qui critiquent le transfert de matériaux à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Les élections européennes, nous nous intéresserons au transport, notamment en France, avec le déploiement d'un nouveau système de signalisation ferroviaire européen. Le reportage d'Hakim Kasmi dans ce journal. Et puis elle s'appelait Flink, cette société met la clé sous la porte. La fin d'une époque, celle où de nombreuses sociétés de commerce à domicile s'étaient créées dans le sillage de la pandémie de Covid. C'est ce que nous racontera Camille Magnard dans ce journal. Autant l'attaque d'Israël par l'Iran à l'aide de drones et de missiles avait été annoncée, médiatisée, commentée le week-end dernier, autant la riposte israélienne semble presque se faire sous les radars. Est-ce que l'on en sait est toujours bien maigre ce soir. 3 explosions ont donc été rapportées près de la ville d'Ispahan qui abrite des sites militaires. Pour le reste, l'Iran minimise sur le mode « il ne s'est rien passé, la vie continue » et Israël ne fait pas de commentaires. De nombreux pays occidentaux notamment ont appelé les deux pays à la mesure et à la prudence. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir, bonsoir à tous.
L'impact de la frappe semble à court terme limité. Israël a répondu en utilisant des méthodes déjà bien éprouvées contre l'Iran ou ses puissances mandataires.
Déjà le 1er avril dernier, Israël n'avait pas revendiqué la frappe sur l'annexe du consulat iranien de Damas qui avait mis le feu aux poudres. La méthode ne change pas et ça fait des années que ça dure, avec des assassinats de scientifiques importants ou comme il y a 2 ans, l'explosion d'une usine de drones dans la ville de Kermanshah, c'est à l'ouest du pays. Et pourtant, le calendrier interpelle. La frappe de la nuit dernière intervient seulement 5 jours après l'attaque iranienne. Difficile de dissimuler une riposte directe, alors que jusque-là, l'État hébreu préférait surprendre son adversaire. Et puis 2 acteurs ont divulgué ce qu'il faut bien considérer désormais comme un secret de polichinelle. Les États-Unis, par la voix d'un diplomate, ont affirmé qu'Israël avait prévenu son allié. Et puis le ministre d'extrême droite Itamar Ben-Gvir a évoqué ce matin dans un message sur le réseau X la faiblesse de la réponse de l'État hébreu. Un aveu rare, très critiqué en Israël, qui nuit clairement à la volonté du gouvernement de continuer à dissuader sans en assumer les conséquences.
Merci Thibault Lefebvre depuis Jérusalem. Signe d'une volonté d'être perçue comme une force modératrice, désormais Washington dit ne pas être impliqué dans ces attaques. Loïc Loury.
Le week-end dernier, suite aux représailles iraniennes contre Israël, Washington avait dit une première fois, et sans surprise, ne pas vouloir prendre part à la moindre opération offensive vis-à-vis de l'Iran. « Nous ne sommes pas impliqués », répète aujourd'hui Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. « Tout ce que je peux dire », assure-t-il, « est que notre objectif est la désescalade. Pas de participation directe donc, et pas de commentaires ou presque des États-Unis, où l'on signale simplement simplement avoir été prévenu par Israël peu de temps avant l'opération menée contre l'Iran. L'administration Biden, le 1er avril, avait au contraire été prise de court par l'attaque israélienne contre le consulat iranien de Damas et l'avait reproché à son partenaire en pointant le risque que cela faisait peser sur les troupes américaines présentes dans la région. La Maison-Blanche, qui fait tout pour ne pas être aspirée dans un conflit au Moyen-Orient, reste malgré tout l'allié indéfectible d'Israël. Washington l'a encore montré en bloquant une adhésion pleine et entière de la Palestine aux Nations Unies ou avec de nouvelles sanctions contre le programme de drones iranien.
Loïc Loury à Washington. Je vous propose de retourner en Israël, prendre le pouls de la population israélienne après cette riposte. Le reportage d'Ajra Mohamed à Haïfa, au nord du pays.
La plupart des habitants de Haïfa ont appris l'information ce matin au réveil et Igor, ce dentiste de 27 ans, se demande encore ce qu'il s'est vraiment passé en Iran la nuit dernière.
Je pense qu'on ne connaît pas encore vraiment l'ampleur de la riposte. Elle est peut-être à la hauteur, peut-être pas, mais selon moi, le moment était bien choisi.
Une riposte ciblée et mesurée, c'est le scénario qui semble avoir été privilégié par Israël et c'est ce que regrettent certains Israéliens croisés dans les rues du centre-ville comme Chaim, presque déçu.
Notre riposte était faible, vraiment très faible. On aurait dû attendre le moment opportun et frapper. Ce n'est pas comme si les cibles manquaient.
Mais d'autres pensent au contraire qu'il fallait se retenir, jouer l'apaisement si possible. C'est l'avis de Yossi, cet opposant au gouvernement de Benjamin Netanyahou.
Comme l'attaque iranienne n'a pas été un succès, on aurait dû en rester là, parce que ça peut quand même envenimer la situation. Il faut faire les choses intelligemment, mettre l'ego et les envies de vengeance de côté.
Et surtout pour Yossi, la priorité est ailleurs, à Gaza, avec tous ses otages à libérer. L'Iran pouvait attendre, dit-il, mais pas eux.
Ajra Mohammad, reportage à Haïfa avec Sandrine Malon pour la liaison technique et avec Alexandra Vardy. Enfin, signalons qu'un homme a été interpellé cet après-midi après une alerte lancée par le consulat d'Iran à Paris. Un individu aurait été vu dans ses locaux porteur d'une grenade ou d'un gilet explosif. Le parquet de Paris indique qu'aucune matière explosive n'avait été retrouvée à ce stade, ni sur lui, ni sur place. L'homme interpellé donc avec ce gilet explosif factice, était déjà à l'origine d'un incendie sur le même bâtiment en septembre dernier. L'Ukraine ne peut plus attendre que l'aide occidentale arrive, a martelé tout à l'heure le président Volodymyr Zelensky lors d'un discours en visioconférence devant les membres de l'OTAN. Discours également à la veille d'un vote crucial du Congrès américain sur une enveloppe de 61 milliards de dollars. Le président ukrainien a notamment réclamé 7 systèmes antiaériens patriotes supplémentaires pour contrer les frappes russes. Quant aux ministres des Affaires étrangères du G7 réunis à Capri en Italie, ils se disent très préoccupé par l'attitude de la Chine dans le conflit. Bonsoir Gwendal Lavina.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Ce qui inquiète, c'est le transfert de matériaux chinois à la Russie, des matériaux qui permettent d'alimenter la machine de guerre contre les Ukrainiens.
Oui, si les États membres du G7 affirment eux-mêmes clairement que l'approvisionnement direct en armes de la Russie provient de la Corée du Nord et de l'Iran, le communiqué diffusé à l'issue de la rencontre s'arrête sur l'approvisionnement de l'industrie de défense russe. Et là, très clairement, la Chine est citée comme le principal fournisseur. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a décrit les produits vendus par Pékin.
Nous voyons la Chine partager des machines-outils, des semi-conducteurs et d'autres biens à double usage qui ont aidé la Russie à reconstruire son industrie de défense. Une industrie que les sanctions et les contrôles à l'exportation avaient tant contribué à affaiblir.
La déclaration commune du G7 évoque également des composants d'armes utilisés par la Russie pour renforcer sa production militaire. Cela pose une menace à l'Ukraine et à la sécurité et la paix internationale, déplorent les ministres réunis en Italie. Le secrétaire d'État américain s'en est pris aussi à la stratégie adoptée par Pékin et son double jeu.
Si la Chine prétend d'une part vouloir de bonnes relations avec l'Europe et d'autres pays, elle ne peut d'autre part alimenter ce qui est la plus grande menace pour la sécurité européenne depuis la fin de la guerre froide.
Les relations avec la Chine pourraient se tendre davantage si Pékin ne cesse pas d'aider l'Ukraine, à aider la Russie, a averti Blinken. Dans le même temps, le G7 a aussi promis de renforcer les capacités de défense aérienne de l'Ukraine pour, je cite, sauver des vies et protéger les infrastructures essentielles.
Merci Wendell. Le 12 mars dernier, un proche allié d'Alexei Navalny était agressé à coups de marteau à Vilnius, en Lituanie. Le collaborateur de l'opposant à Vladimir Poutine, décédé en colonie pénitentiaire, avait été hospitalisé. On apprend aujourd'hui que 2 personnes soupçonnées de l'agression, 2 Polonais, ainsi qu'un commanditaire biélorusse, ont été arrêtés. C'est ce qu'annonce séparément le président lituanien Gitanas Nauseda et le premier ministre polonais Donald Tusk. En Espagne, la Catalogne est en état d'urgence depuis le mois de février. La région connaît sa pire sécheresse depuis un siècle et avait recours au ravitaillement par bateau. Ce sera désormais exclu. Une usine flottante de dessalement d'eau de mer va être construite dans le port de Barcelone. Cette solution d'urgence qui a fait ses preuves au Moyen-Orient est une première en Europe. Mais la Catalogne n'a plus vraiment le choix. À Barcelone, la correspondance de Henri de la Guéry.
Qu'il pleuve ou non, on ne verra pas de bateau rempli d'eau en provenance de Marseille ou de Valence dans le port de Barcelone. Les autorités locales vont finalement faire appel à une usine flottante de dessalement, a annoncé hier David Mascorte, c'est le ministre catalan de l'Environnement.
C'est une solution moins coûteuse que les bateaux qui permet une meilleure sécurité d'approvisionnement. De cette manière, on garantit à tout le monde un accès à l'eau potable, même si l'eau ne tombe plus du ciel.
L'usine flottante installée sur un immense cargo sera opérationnelle dans le port industriel d'ici octobre prochain, 40 000 mètres cubes d'eau pourront être produits chaque jour. C'est 6% de la consommation quotidienne de la ville. Ce type d'installation inédit en Europe est utilisé en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Mais c'est une solution très provisoire qui ne résout pas grand-chose, dénonce la maire adjointe de Barcelone. Pour Laïa Bonnet, les indépendantistes qui dirigent la région n'ont pas su anticiper les effets du réchauffement climatique.
Toutes les décisions improvisées sont mauvais signes. Mais en plus, ici, ce sont des décisions qui doivent être prises car rien n'a été fait pendant 10 ans. Cela renvoie donc une très mauvaise image aux touristes qui nous visitent, comme à nos habitants.
Le nord de la Catalogne, à la frontière des Pyrénées-Orientales, est également en situation critique. 12 petites stations de dessalement mobile seront installées d'ici l'été afin de garantir l'approvisionnement de la Costa Brava.
Henri de Laguerie à Barcelone. C'est décidément la fin d'une époque dans le secteur du commerce, celle de ces sociétés qui s'étaient développées très vite sur le créneau de la livraison des courses à domicile dans les grands centres urbains. L'une des dernières à ne pas avoir mis la clé sous la porte, Flink, vient d'annoncer sa mise en liquidation. Bonsoir Camille Manière.
Bonsoir Nicolas.
C'est la pandémie qui avait permis à ces entreprises, les Getir, Gorillaz, Cajou, Frishti et autres, de se développer très vite avec des armadas de livreurs en vélo ou à scooter. Il n'en reste quasiment plus rien.
Oui, avec Flink, ce sont 218 emplois en CDI qui sont liquidés avec le minimum d'indemnité possible. Et des milliers d'autres emplois en CDI ont déjà disparu avec ces sociétés qui levaient encore des centaines de millions d'euros il y a quelques années. Leur modèle économique était basé sur le concept des dark stores, ces entrepôts où était stockée la marchandise dans les centres-villes pour pouvoir livrer rapidement les clients urbains. Tout ça en violation de règles d'urbanisme. La loi y a remis de l'ordre, puis l'inflation est passé par là et les Getir, Gorillaz et compagnie ont bu le bouillon. Ludovic Rioux est en charge du secteur de la livraison à la CGT Transport.
En fait, ce qui se passe à Flink là, et puis ce qui est arrivé dans toutes les autres entreprises du quick commerce, c'est la logique qui est derrière. C'est celle de dire qu'aujourd'hui en France, un employeur, il peut faire une levée de fonds, acheter une entreprise, une bouchée de pain, en bénéficiant d'aide emploi jeune ou peut-être d'autres aides parce qu'il livre en vélo des produits considérés comme écologiques. Et un an et demi plus tard, il peut liquider une partie de son entreprise pour une bouchée de pain.
Et ces entreprises, elles ont beaucoup communiqué à leur début en disant qu'elles recrutaient en CDI, à l'inverse des plateformes de livraison comme Uber Eats ou Deliveroo. Mais au final, ce sont ces plateformes qui sortent gagnantes de cette sorte de sélection naturelle appliquée au secteur que l'on a surnommé le quick commerce, secteur sur lequel la députée MoDem de Paris, Maud Gatel, a co-rédigé un rapport.
Le quick commerce n'est pas mort, bien au contraire. Désormais, vous avez l'ensemble des supermarchés qui proposent des livraisons par Uber Eats. Et donc, en fait, c'est profondément installé, et ce qui pose effectivement d'énormes problèmes sur un plan social, parce que les conditions sociales, elles sont déplorables. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment qu'on fasse en sorte que les règles s'appliquent à tous, et eux en premier lieu.
Et ça devrait commencer par la transposition dans le droit français de la toute récente directive européenne qui vise à assurer enfin de vrais droits sociaux aux travailleurs de ces plateformes. Petit rappel, le gouvernement français avait été le seul parmi les 27 à se prononcer contre ce texte.
Merci Camille Magnard. À l'approche des élections européennes, France Culture met en lumière plusieurs pays, plusieurs défis dans le cadre de nos vendredis Être européen. Aujourd'hui, la France et la question des transports. Nous nous intéressons ce soir plus particulièrement à la mise en place en français en Europe de l'ERTMS, qui est le nouveau système européen de gestion du trafic ferroviaire unique, lancé il y a une quinzaine d'années pour harmoniser le système ferroviaire. Son déploiement est en phase d'accélération depuis l'ouverture à la concurrence en Europe. Alors pour mieux comprendre ce qu'il va changer pour les agents de conduite et les passagers, Hakim Kasmi a pu, et en exclusivité pour France Culture, suivre un conducteur de TGV sur la ligne à grande vitesse entre Rennes et Paris.
Donc là on a l'autorisation de partir, c'est ouvert, c'est l'heure.
À bord de la cabine de conduite de notre TGV Rennes-Paris, le paysage, tout comme les panneaux et les feux de signalisation, défile à plus de 300 km/h. À cette vitesse, il n'est pas toujours évident pour les conducteurs de voir correctement à l'extérieur les informations dont ils ont besoin, notamment les jours où la météo n'est pas bonne. Avec le RTMS, toutes les informations sont désormais envoyées directement par anticipation sur un écran dans le poste de pilotage. Comme nous l'explique David Ferry, le responsable des conducteurs TGV en Bretagne.
C'est vrai qu'à arriver à une certaine vitesse, le conducteur ne peut plus observer les signaux classiques que l'on voit le long des voies. Donc, pour plus de confort, plus de sécurité, toute la signalisation a été emmenée sur le pupitre en cabine. Donc, le conducteur a toutes les indications en cabine, les vitesses à respecter, il a tout ce qu'il faut pour travailler en sécurité.
Là, aujourd'hui, il fait beau, mais les jours où il fait gris ou du brouillard, ça aide beaucoup.
Comme on se dirige plein est sur Paris, on a le soleil dans les yeux. Et c'est vrai que le conducteur a baissé le store pour pas avoir le soleil dans les yeux. Il voit la voie quand même, hein, mais il regarde tout ce qui se passe en cabine pour pouvoir circuler en sécurité.
Circuler en toute sécurité, mais aussi augmenter la cadence des trains, c'est également ce que va permettre ce nouveau dispositif, et cela, quels que soient les opérateurs, car ce nouveau logiciel est le même partout en Europe, ce qui devrait faciliter, en théorie du moins, l'ouverture à la concurrence, notamment sur la ligne Paris-Lyon, qui est déjà saturée, où la SNCF est en concurrence frontale avec un nouvel opérateur, Trenitalia. Éric Morand, le directeur du programme digitalisation de la signalisation chez SNCF Réseau.
Si on prend comme exemple la ligne Paris-Lyon, on pourra augmenter le nombre de trains de l'ordre de 25%. Donc le nombre de trains pouvant circuler par heure et par sens de l'ordre de 25%, ce qui permet effectivement de cadencer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un espacement relativement dynamique entre les trains qui tient compte de l'espacement entre les différents trains et de manière dynamique, pas avec des cantons fixes comme était la signalisation jusqu'alors. Ça a d'autres vertus, comme la robustesse par rapport à un certain nombre de problématiques, la capacité effectivement à gérer des situations en mode dégradé de manière beaucoup plus simple. Et on traite avec ça l'obsolescence d'un certain nombre de systèmes qui vont de pair.
Alors, avec la possibilité de faire rouler plus de trains, cela peut-il faire baisser le prix des billets ? Pas forcément tout de suite. En effet, sur le réseau français, le RTMS n'est pour l'instant installé que sur 1000 km de voies, contrairement à l'Italie, où l'intégralité des lignes à grande vitesse en sont déjà équipées. Pour rattraper son retard, donc, SNCF Réseau va investir 1,5 milliard d'euros par an jusqu'en 2030, avec l'objectif d'équiper 6000 km de lignes, mais pas avant 2040. La patience sera donc de mise, estime François Delétraze, le nouveau président de la FNOT, la Fédération nationale des associations d'usagers de transport.
Un nouvel entrant, il a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent, parce que contrairement à l'aérien, faire rouler un train, c'est très compliqué. Et les nouveaux entrants à l'heure actuelle en France, on n'a que des nouveaux entrants qui sont déjà des compagnies nationales dans leur pays. On n'a aucun nouvel entrant qui est un entrant disruptif comme a pu l'être EasyJet en son temps dans l'aérien. Donc à l'heure actuelle, on est dans un entre-soi un peu de bon aloi entre les Français, les Espagnols, les Italiens, peut-être les Allemands demain. Mais le jour où le RTMS sera mis en place, évidemment, ça représentera une énorme économie pour les opérateurs, puisqu'ils auront des machines qui pourront aller de bout en bout sans être obligés d'embarquer plusieurs systèmes de signalisation.
Désormais, les opérateurs ferroviaires européens espèrent donc qu'à terme, les économies réalisées grâce à l'ERTMS feront baisser le prix des péages qui représentent en France 40% du prix d'un billet de TGV.
Hakim Kasmi, les élections européennes côté campagne électorale et policier. La militante franco-palestinienne et candidate de la France insoumise aux européennes, Rima Hassan, est convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Rima Hassan sera entendue dans les locaux de la direction de la police judiciaire à Paris. Le 30 avril au matin, selon LFI, il s'agit d'une nouvelle intimidation inacceptable. Quelques heures seulement après la double annulation d'une conférence de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon, LFI dénonce une tentative d'intimider et de criminaliser toutes les voix qui se lèvent face au massacre en cours à Gaza. Fin de citation. En ce début de campagne, les têtes d'affiche passent par l'outre-mer. Après Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier et Marine Le Pen, c'est Raphaël Glucksmann qui vient d'atterrir à La Réunion. La tête de liste PS Place Publique entame une visite de 3 jours. Reportage sur le marché de Saint-Paul, Audrey Tison.
Chemise blanche, grand sourire et dégustation d'ananas.
Non mais c'est effectivement le meilleur.
Premier défi pour le candidat, se faire reconnaître des potentiels électeurs. La maire de Saint-Denis, Erika Barège, est là pour faire les présentations.
Bonjour. Le candidat aux européennes, celui qui défend l'Europe, les rues, La Réunion.
Mais un peu plus loin, une vendeuse de fruits et légumes reconnaît Raphaël Glucksmann. Elle l'interpelle. On a besoin d'Europe.
Alors, vous avez besoin de quoi en Europe ?
De l'argent. Les aides ? Les aides ?
Ouais.
On est à 10 000 km. Hein.
avec un kilo d'oignon à 10 euros qui se bat pour nous là. On a besoin de vous.
Mais en fait, c'est les marges qui constituent le prix. Donc nous, ce qu'on veut porter à l'échelle européenne, c'est une directive, une loi sur la transparence dans la formation des prix, pour que les gens sachent d'où vient l'augmentation des prix.
Le pouvoir d'achat, sujet numéro 1 ici, c'est aussi celui que porte Marine Le Pen. La candidate RN est également en déplacement à La Réunion.
Elle n'est pas partie encore. Elle est là, elle est sur le marché. Non, mais vous me prévenir. Ça prouve que La Réunion, c'est fondamental et que c'est important.
Pas plus de commentaires sur ses adversaires. Glucksmann veut rester sur ses propositions et son message. La Réunion a besoin de l'Europe.
Audrey Tison à La Réunion. Le temps demain sera marqué par des pluies et des averses à l'est du pays et de belles éclaircies ailleurs. Les températures n'excéderont pas 9 à 13 degrés sur un grand quart nord-est, 17 à 21 degrés au sud. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Jean-François Braun, à la technique Anthony Thomasson.